Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Le programme suivant, nous allons présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère de l'Éducation et de la Culture a signé un protocole d'accord MOU avec l'Université de Technologie d'Auckland, AUT. La réunion Indonésie-Roumanie se concentre sur la coopération de l'économie et de l'infrastructure. La ministre indonésienne des Affaires étrangères demande à la Roumanie la politique d'exemption de visa pour les citoyens indonésiens. Le ministre du Commerce était le témoin d'un contrat commercial de 97 millions de dollars américains. Kadin élargit le marché d'exportation. Et enfin, Jordan est prêt à acheter le thon de Gorontalo. Voici le journal complet. Le ministère de l'Éducation et de la Culture, à travers la mise en œuvre du Forum mondial de la culture WCF en 2016, le mercredi à Nusa Dua, Bali, a signé un protocole d'accord MOU avec l'Université de Technologie d'Auckland, AUT, sur l'envoi des activités culturelles en Nouvelle-Zélande. La signature de MOU a été menée par le chef du Bureau de la planification et de la coopération internationale du ministère de l'Éducation et de la Culture, Suharti, avec le vice-recteur de l'Université de Technologie d'Auckland, professeur Nigel Hamilton, assisté par des représentants de l'ambassade de Nouvelle-Zélande en Indonésie, ainsi que le directeur général de la Culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hilmar Farid. Après la signature du protocole d'accord, Nigel Hamilton a souligné l'importance de la coopération entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande dans le domaine de la culture. Selon lui, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande bien apprécie la coopération entre les deux côtés et soutient par le développement indonésien. Il a été montré dans l'enthousiasme du gouvernement de la Nouvelle-Zélande qui cherche d'opportunités à venir en Indonésie et soutient des activités dans ce pays. Et notre premier ministre est très préoccupé par la coopération entre le ministère de l'Indonésie et l'Université de Technologie d'Auckland pour les enseignants et les activistes de cette culture. Notre premier ministre est intéressé au succès de ce programme. La coopération culturelle entre le gouvernement indonésien et l'Université de Technologie d'Auckland couvre la livraison de 50 activistes de la culture à la Nouvelle-Zélande. Le directeur général de la culture du ministère de la Culture, Hilmar Farid, a dit qu'il était un effort visant à renforcer les compétences des activistes culturels dans leurs domaines respectifs. Ces domaines sont la danse, la musique, le théâtre, des films, des galeries et des musées, visuels et historiens. Les activistes culturels en 2016 auront lieu le 13 novembre à 4 décembre 2016. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré son homologue de la Roumanie, Lazar Comăneciu, mercredi le 10 octobre au ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La visite du ministre roumain des Affaires étrangères est sa première visite officielle à l'Indonésie depuis les 66 ans de la relation diplomatique entre les deux pays. Le ministre Lazar Comăneciu est accompagné d'une délégation d'affaires pour assister à l'exposition commerciale de l'Indonésie, TEI, à Jakarta. La délégation est composée d'hommes d'affaires dans les domaines de l'énergie, la construction, les biens de consommation et l'agriculture. Lors de la réunion bilatérale, les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, le commerce, l'investissement, le contact de personne aux personnes et les questions actuelles dans la région.
We are glad that we see a very significant growth January to June this year. If compared to January June last year, it shows a 32.5% growth.
Nous sommes heureux de voir une croissance très significative de janvier à juin de cette année par rapport de janvier à juin l'année dernière. Il y avait une augmentation de 32,5% dans nos échanges bilatéraux. Ainsi, il est un signe très positif pour notre relation bilatérale. Donc, nous discutons également de la possibilité de l'intensification des relations bilatérales dans le domaine de l'infrastructure. Parce que l'infrastructure est l'une des priorités de notre gouvernement actuellement. La ministre Retno a affirmé que le ministre des Affaires étrangères roumain rencontre le ministre indonésien des Transports pour discuter de la coopération dans les infrastructures. Les deux pays ont également convenu de coopérer dans le domaine de l'éducation. À présent, un diplomate roumain assiste à une formation en Indonésie. En outre, l'Indonésie a demandé à la Roumanie l'accès de l'exemption de visa pour les citoyens indonésiens. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue roumain, Lazar Comăneciu, à Jakarta, mercredi. Lors de la réunion, l'Indonésie a demandé l'accès de l'exemption de visa à la Roumanie. Le directeur général pour la Mérite et l'Europe du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Anishor, après la réunion, a déclaré à la presse que la demande de l'exemption de visa est importante d'augmenter la coopération commerciale et les contacts individuels. L'Indonésie a fourni l'exemption de visa et espère que la Roumanie donne la même politique.
Yang paling strategis untuk bisa mengkondisikan, memberikan apa namanya enabling environment adalah akses.
Le plus stratégique pour fournir un environnement favorable est l'accès. L'accès à une relation avec le visa gratuit. L'Indonésie a mis en œuvre la politique des visas gratuits pour les citoyens roumains pour une courte visite. Nous espérons que c'est pour le bénéfice des deux parties. Cependant, la Roumanie n'a pas encore la même politique. M. Anishor a ajouté, par rapport au pays de l'ASEAN, l'Indonésie devrait avoir la priorité dans l'obtention d'une politique d'exemption de visa. Il a affirmé que le ministre roumain des Affaires étrangères a promis que dans un proche avenir, il y aurait de bonnes nouvelles concernant l'octroi de la politique d'exemption de visa pour les citoyens indonésiens. La Roumanie est le sixième partenaire commercial de l'Indonésie dans la région de l'Europe centrale et orientale. Les exportations principales de l'Indonésie vers la Roumanie sont le caoutchouc, le matériau de base en plastique, les appareils téléphoniques, des papiers et des cartons, ainsi que des matériaux en fibre artificielle. Pendant ce temps, l'Indonésie importe des produits de machines, des produits pharmaceutiques, le bois et le charbon, ainsi que le noyau de fer. Le ministre indonésien du commerce, Lukita Enggiar Tiasto, était le témoin de la signature de 10 contrats commerciaux du programme de la mission d'achat de la première session ayant pour valeur de 97 millions de dollars américains à l'exposition internationale du commerce Trade Expo Indonesia TEI 2016. Le ministre Enggiar a déclaré mercredi à J-Expo Kemayoran Jakarta que la signature d'un contrat commercial était très prometteur car les produits indonésiens sont préférés et sont capables de concurrencer sur le marché mondial. La signature a été également assistée par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, et le chef de la Chambre de commerce et d'industrie, Kadin Lengnizi, Rosan P. Ruslani. La signature a été faite par les entreprises du Canada, des États-Unis, de l'Inde, l'Espagne, Taïwan, la Russie, l'Australie et la Suisse avec les entreprises et les exportateurs lingnésiens avec la transaction totale de plus de 97 millions de dollars américains. Selon Enggiar Tiasto, la signature est une preuve et une cohérence des représentants commerciaux indonésiens à l'étranger pour contribuer à une augmentation des exportations nationales. Il a dit que de cette valeur totale, la grande transaction a été obtenue à partir de la signature du contrat commercial entre Firmeni de la Suisse avec les exportateurs Indeso pour les produits d'huile essentielle. La Chambre de commerce et d'industrie Kadin est prête à aider le gouvernement à élargir les marchés d'exportation. Il y a encore beaucoup de pays potentiels d'être la destination des exportations pour les produits indonésiens. Le chef de Kadin, Rosan Perkasa Ruslani, a déclaré mercredi que certains pays qui pourraient être les nouvelles destinations à l'exportation étaient l'Afrique, l'Inde, la Corée du Sud, l'Égypte, l'Iran et le Bangladesh. Actuellement, la valeur des exportations vers ces pays n'est pas grande. Rosan Perkasa Ruslani a dit Kadin avait intensifié la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement avec de nombreux pays, en plus de l'Afrique et de l'Asie, à savoir les pays d'Amérique latine comme l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Il a ajouté qu'il a même rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay, Rodolfo Ninovoa, pour discuter de l'intensification de la coopération commerciale. Néanmoins, il espère que le gouvernement fournit des incitations pour les micro, petites et moyennes entreprises, PME. Les incitations sont importantes pour que la base des exportateurs nationaux provenant de PMI soit grande de plus en plus. L'investisseur de Jordanie, Iyad Al-Sharafa, est prêt à acheter le thon frais classe C de Gorontalo qui atteint 25 tonnes par jour. Ceci est révélé via one-on-one meeting avec les hommes d'affaires locaux Gorontalo à l'activité Indonesia Middle East Update 2016 participée par les investisseurs des pays du Moyen-Orient à Gorontalo mercredi. Le chef du Conseil de la planification et du développement régional Bapeda de la province de Gorontalo, Budianto Sidiki, a dit que M. Iyad Sharafa était prêt à coopérer avec les coopératives de pêcheurs à Gorontalo, prêt à ouvrir une usine de thon au fond de l'exportation vers la Jordanie. Concernant la question par le gouverneur Rusli Habibi et le vice-gouverneur de Gorontalo, Idris Rahim, le gouvernement provincial continue à renforcer la coordination avec le quartier ou la ville pour donner des encouragements aux pêcheurs afin d'améliorer la capacité de la pêche au thon. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire ayant pour le titre « Autonomiser le secteur agricole dans la région frontalière ». L'agriculture, en particulier les cultures vivières, a un rôle à maintenir la défense d'un pays. L'Indonésie est un pays agricole qui repose sur le rôle du secteur agricole pour répondre aux besoins de base de la société. Tous les jours, les gens de l'Indonésie font le riz comme aliment de base. Pour l'égalisation du bien-être public dans le secteur alimentaire, le gouvernement, via le ministère de l'Agriculture, s'efforce à développer le secteur agricole dans la région dont le territoire se trouve à la frontière. Comme dans les îles Riau qui comprennent la résidence de Natuna, Karimun, Bintan et Batam et d'autres zones frontalières adjacentes aux pays voisins. Pendant ce temps, l'île de Java est toujours le centre de la terre de riz dans le pays. Il faut du temps et de coûts pour effectuer des livraisons de riz à des zones périphériques ou frontalières. En conséquence, le prix du riz dans la région devient plus cher. Pour répondre aux besoins de base, la population de la région frontalière achète parfois le riz du pays voisin qui se trouve à côté de leur territoire. Accéder à l'arrivée de produits étrangers à l'Indonésie en chemin qui est souvent appelé comme un chemin de souris, comme l'île de Batam borde avec Singapour qui devient la porte de divers produits importés, y compris l'alimentation. Le ministre de l'Agriculture, Amran Sulaiman, a révélé que l'Indonésie serait en mesure d'augmenter la production alimentaire, en particulier le riz, si le secteur agricole dans la région frontalière est développé. Les îles de Riau peuvent prioriser les cultures vivrières biologiques dont les produits sont plus chers, mais favorisés par les consommateurs d'outre-mer, à savoir Singapour et en Malaisie. D'autres régions frontalières ont même l'occasion d'améliorer plus l'agriculture qui peut être exportée. Par exemple, Sumba de l'Est peut exporter ses produits agricoles vers Timor-Leste avec juste une promenade, car son emplacement était très proche. De même, Merauke bordant avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour développer l'agriculture dans la zone frontalière, le ministère de l'Agriculture a fait l'application technologique, le calendrier de plantation intégrée au CATAM. CATAM est un système d'information qui est utilisé pour anticiper les variabilités climatiques. Avec cette façon, les agriculteurs peuvent ajuster le temps et la structure de la plantation des cultures vivrières avec la technologie de la culture plus appropriée, l'application de variétés excellentes adaptatives qui sont résistantes à la sécheresse. Le ministère de l'Agriculture avec le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Environnement et des Forêts ont également construit une irrigation durable jusqu'à 2020. Il est prévu que la synergie entre les ministres concernés sera en mesure de développer des produits agricoles nationaux plus maximum, pour que l'espoir pour la prospérité du peuple de l'Indonésie puisse être atteint immédiatement. Sergiteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sergiam Longten, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui saisit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Ankara remplace Istanbul en tant que capitale de la Turquie le 13 octobre 1923. Ankara est la capitale de la Turquie depuis le 13 octobre 1923, remplaçant Constantinople ou Istanbul. Après que l'Empire ottoman ait perdu dans la Première Guerre mondiale, la capitale de Constantinople ou Istanbul est contrôlée par l'État allié, le combattant nationaliste turc sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk a fondé la base de leur lutte à Ankara. Après la réussite de leur lutte d'indépendance, ils ont fondé la République turque le 29 octobre 1923. Cependant, quelques jours avant, le 13 octobre 1923, Ankara a été désignée comme la capitale. La Le temps d'information est sur la constitution de la 4e République le 13 octobre 1946. Après le gouvernement de Vichy 1940 à 1944 et le gouvernement provisoire né de la libération 1944 à 1946, la France se dote d'une nouvelle constitution. Après un long processus d'élaboration, le projet constitutionnel est adopté par référendum avec une faible majorité. Il définit un bicamérisme complexe et déséquilibré. La Chambre des députés a un rôle envahissant. 2 ans plus tard, la France adopte une autre constitution, celle de la 5e République, qui donne plus de pouvoir au président de la République. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la Journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles, le 13 octobre. La Journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles a été conçue par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager les gens et les gouvernements à prendre part à la construction de la communauté et les sociétés qui sont résistantes aux catastrophes naturelles. Au début, la Journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles est célébrée chaque deuxième mercredi en octobre. Cette journée internationale fait partie de la proclamation de la décennie internationale de la réduction des catastrophes naturelles qui a débuté en 1990. En 2002, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de maintenir les efforts de la réduction d'impact et de l'atténuation des catastrophes naturelles mondiales en créant la Journée internationale de commémoration qui est célébrée chaque année. Enfin, en 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement fixé 13 octobre comme la Journée internationale de la réduction des catastrophes naturelles. Ce résultat, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous. Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le gouvernement indonésien renforce l'image de marque de tissu tissé pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN ». Le ministère de l'Industrie est prêt à promouvoir un tissu tissé qui caractérise les vêtements des gens indonésiens, a déclaré le directeur général des petites et moyennes industries du ministère de l'Industrie, Madame Gati Wibawaningsih, à Republika Jakarta le dimanche. Le batik est populaire dans de nombreux milieux, non seulement le peuple de l'Indonésie, la communauté internationale était déjà familier avec le batik comme produit local indonésien. Après le batik est populaire, le ministère de l'Industrie va commencer à introduire des produits de tissu tissé l'année prochaine, comme déclaré Madame Gati Wibawaningsih récemment à Republika Jakarta. Selon elle, les progrès de développement de produits de batik proviennent de micro, petites et moyennes entreprises. Et maintenant, il est fait par des petites et moyennes industries. Et le gouvernement veut une évolution similaire avec des tissus industriels de tissu tissé. Les artisans de tissu tissé existent dans diverses régions, telles que l'île de Sumatra, Nusa Tenggara Est, Papouasie, Sumatra du Nord, comme par exemple, est célébré pour ses tissus ulos. À Palembang, possède aussi un tissu tissé assez connu, c'est le Songket. Kalimantan Ouest est célébré pour le tissage sambas, qui a une variété de motifs, tels que le motif de tepuk pedada, mata punai, awan larak et pucuk rebung. Ces produits seront développés pour être plus connus par des gens. Madame Gati Wibawaningsi a déclaré que la promotion sera faite d'abord pour les gens dans le pays. Après la promotion à l'intérieur, le ministère de l'Industrie va également donner une éducation aux touristes étrangers que des produits de tissu indonésien non seulement batik, mais aussi des tissus tissés typiques de l'Indonésie. La promotion des tissus indonésiens est en ligne avec la politique du ministère de l'Industrie pour renforcer l'image de marque des produits industriels nationaux, surtout dans la mise en œuvre de libre-échange, telle que la communauté économique de l'ASEAN. Le renseignement de la marque peut élargir l'accès aux marchés internationaux. C'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le ministère de l'Éducation et de la Culture, à travers la mise en œuvre du Forum mondial de la culture WCF en 2016, le mercredi à Nusa Dua, Bali, a signé un protocole d'accord MOU avec l'Université de technologie d'Auckland, AUT, sur l'envoi des activités culturelles en Nouvelle-Zélande. La signature de MOU a été menée par le chef du Bureau de la planification et de la coopération internationale du ministère de l'Éducation et de la Culture, Suharti, avec le vice-recteur de l'Université de technologie d'Auckland, professeur Nigel Hemington, assisté par des représentants de l'ambassade de Nouvelle-Zélande en Indonésie, ainsi que le directeur général de la Culture du ministère de l'Éducation et de la Culture, Hilmar Farid. Après la signature du protocole d'accord, Nigel Hemington a souligné l'importance de la coopération entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande dans le domaine de la culture. Selon lui, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande bien apprécie la coopération entre les deux côtés et soutient par le développement indonésien. Il a été montré dans l'enthousiasme du gouvernement de la Nouvelle-Zélande qui cherche d'opportunités à venir en Indonésie et soutient des activités dans ce pays. Et notre premier ministre est très préoccupé par la coopération entre le ministère de l'Indonésie et l'Université de technologie d'Auckland pour les enseignants et les activistes de cette culture. Notre premier ministre est intéressé au succès de ce programme. La coopération culturelle entre le gouvernement indonésien et l'Université de technologie d'Auckland couvre la livraison de 50 activistes de la culture à la Nouvelle-Zélande. Le directeur général de la culture du ministère de la Culture, Hilmar Farid, a dit qu'il était un effort visant à renforcer les compétences des activistes culturels dans leurs domaines respectifs. Ces domaines sont la danse, la musique, le théâtre, des films, des galeries et des musées, visuels et historiens. Les activistes culturels en 2016 auront lieu le 13 novembre à 4 décembre 2016. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré son homologue de la Roumanie, Lazar Comănescu, mercredi le 12 octobre au ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La visite du ministre roumain des Affaires étrangères est sa première visite officielle à l'Indonésie depuis les 66 ans de la relation diplomatique entre les deux pays. Le ministre Lazar Comănescu est accompagné d'une délégation d'affaires pour assister à l'exposition commerciale de l'Indonésie, TEI, à Jakarta. La délégation est composée d'hommes d'affaires dans les domaines de l'énergie, la construction, les biens de consommation et l'agriculture. Lors de la réunion bilatérale, les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, le commerce, l'investissement, le contact de personnes aux personnes et les questions actuelles dans la région.
We are glad that we see a very significant growth January to June this year, and compared to January-June last year, it shows a 32.5%.
Nous sommes heureux de voir une croissance très significative de janvier à juin de cette année par rapport de janvier à juin l'année dernière. Il y avait une augmentation de 32,5% dans nos échanges bilatéraux. Ainsi, il est un signe très positif pour notre relation bilatérale. Donc, nous discutons également de la possibilité de l'intensification des relations bilatérales dans le domaine de l'infrastructure. Parce que l'infrastructure est l'une des priorités de notre gouvernement actuellement. La ministre Retno a affirmé que le ministre des Affaires étrangères roumain rencontre le ministre indonésien des Transports pour discuter de la coopération dans les infrastructures. Les deux pays ont également convenu de coopérer dans le domaine de l'éducation. À présent, un diplomate roumain assiste à une formation en Indonésie. En outre, l'Indonésie a demandé à la Roumanie l'accès de l'exemption de visa pour les citoyens indonésiens. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec son homologue roumain, Lazar Comănescu, à Jakarta, mercredi. Lors de la réunion, l'Indonésie a demandé l'accès de l'exemption de visa à la Roumanie. Le directeur général pour la Mairie et l'Europe du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Anshor, après la réunion, a déclaré à la presse que la demande de l'exemption de visa est importante d'augmenter la coopération commerciale et les contacts individuels. L'Indonésie a fourni l'exemption de visa et espère que la Roumanie donne la même politique.
Yang paling strategis untuk bisa mengkondisikan, memberikan apa namanya enabling environment adalah akses.
Le plus stratégique pour fournir un environnement favorable est l'accès. L'accès à une relation avec le visa gratuit. L'Indonésie a mis en œuvre la politique de visa gratuit pour les citoyens roumains pour une courte visite. Nous espérons que c'est pour le bénéfice des deux parties. Cependant, la Roumanie n'a pas encore la même politique. M. Anshor a ajouté, par rapport au pays de l'ASEAN, l'Indonésie devrait avoir la priorité dans l'obtention d'une politique d'exemption de visa. Il a affirmé que le ministre roumain des Affaires étrangères a promis que dans un proche avenir, il y aurait de bonnes nouvelles concernant l'octroi de la politique d'exemption de visa pour les citoyens indonésiens. La Roumanie est le sixième partenaire commercial de l'Indonésie dans la région de l'Europe centrale et orientale. Les exportations principales de l'Indonésie vers la Roumanie sont le caoutchouc, le matériau de base en plastique, les appareils téléphoniques, des papiers et des cartons, ainsi que des matériaux en fibre artificielle. Pendant ce temps, l'Indonésie importe des produits de machines, des produits pharmaceutiques, le bois et le charbon, ainsi que le noyau de fer. Le ministre indonésien du Commerce, Lukita Enggiar Tiasto, était le témoin de la signature de 10 contrats commerciaux du programme de la mission d'achat de la première session ayant pour valeur de 97 millions de dollars américains à l'exposition internationale du commerce Trade Expo Indonesia, TEI 2016. Le ministre Enggiar a déclaré mercredi à J-Expo Kemayoran Jakarta que la signature d'un contrat commercial était très promoteur car les produits indonésiens sont préférés et sont capables de concurrencer sur le marché mondial. La signature a été également assistée par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, et le chef de la Chambre de commerce et d'industrie, Kadin Indonésie, Rosan P. Ruslani. La signature a été faite par les entreprises du Canada, des États-Unis, de l'Inde, l'Espagne, Taïwan, la Russie, l'Australie et la Suisse avec les entreprises et les exportateurs de l'Indonésie, avec la transaction totale de plus de 97 millions de dollars américains. Selon Enggiar Tiasto, la signature est une preuve et une cohérence des représentants commerciaux indonésiens à l'étranger pour contribuer à une augmentation des exportations nationales. Il a dit que de cette valeur totale, la grande transaction a été obtenue à partir de la signature du contrat commercial entre Firmeni de la Suisse avec les exportateurs Indeso pour les produits d'huile essentielle. La Chambre de commerce et d'industrie CADIN est prête à aider le gouvernement à élargir les marchés d'exportation. Il y a encore beaucoup de pays potentiels d'être la destination des exportations pour les produits indonésiens. Le chef de CADIN, Rusan Perkasa Ruslani, a déclaré mercredi que certains pays qui pourraient être les nouvelles destinations à l'exportation étaient l'Afrique, l'Inde, la Corée du Sud, l'Égypte, l'Iran et le Bangladesh. Actuellement, la valeur des exportations vers ces pays n'est pas grande. Rusan Perkasa Ruslani a dit CADIN avait intensifié la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement avec de nombreux pays, en plus de l'Afrique et de l'Asie, à savoir les pays d'Amérique latine comme l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Il a ajouté qu'il a même rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay, Rodolfo Ninovoa, pour discuter de l'intensification de la coopération commerciale. Néanmoins, il espère que le gouvernement fournit des incitations pour les micro, petites et moyennes entreprises PME. Les incitations sont importantes pour que la base des exportateurs nationaux provenant de PMI soit grande de plus en plus. L'investisseur de Jordanie, Iyad Al-Sharafa, est prêt à acheter le thon frais classe C de Gorontalo qui atteint 25 tonnes par jour. Ceci est révélé via one-on-one meeting avec les hommes d'affaires locaux Gorontalo à l'activité Indonesia Middle East Update 2016 participée par les investisseurs des pays du Moyen-Orient à Gorontalo mercredi. Le chef du Conseil de la planification et du développement régional BAPEDA de la province de Gorontalo, Budianto Sidiki, a dit que M. Iyad Sharafa était prêt à coopérer avec les coopératives de pêcheurs à Gorontalo, prêt à ouvrir une usine de thon au fond de l'exportation vers la Jordanie. Concernant la question par le gouverneur Rusli Habibi et le vice-gouverneur de Gorontalo, Idris Rahim, le gouvernement provincial continue à renforcer la coordination avec le quartier ou la ville pour donner des encouragements aux pêcheurs afin d'améliorer la capacité de la pêche au thon. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, je vais présenter le magazine culturel intitulé Craquelin ou mythe. Le craquelin en Indonésie appelé kerupuk sont les aliments familiers pour les gens de l'Indonésie. Souvent, ils présentent pour accompagner le plat principal. Un craquelin fabriqué à partir de farine de tapioca avec le mélange de crevettes ou de poissons. Pour faire ces craquelins, d'abord le mélange de la pâte de farine, de poisson ou de crevettes sont cuits jusqu'à cuisson et ensuite coupés en petits morceaux, séchés au soleil et pour en profiter, les craquelins doivent être frits. Contrairement au craquelin en général, il se sent sec. Le craquelin de la région de Kapuas Hulu, la province de Kalimantan Occidental, a goûté spongieux et humide. Donc, ils sont connus comme les craquelins humides. Les populations locales nommées temat. Bien qu'ils soient appelés kerupuk, l'aliment de Kapuasulu n'est pas fait pour être fait le kerupuk ou le craquelin, mais ils sont servis directement, ne doivent pas être séchés au soleil et frits. Les craquelins humides généralement sont fabriqués à partir de poissons d'eau douce, mais le poisson belidak est une sorte de poisson le plus délicieux comme la base matériau de kerupuk basah. Les poissons exotiques sont souvent trouvés dans la rivière Kapuasulu, dans les environs du lac Sentarum. Mais maintenant, il n'est pas facile de trouver ce type de poisson parce que son existence est de plus en plus rare, de sorte que les communautés locales le remplacent par le poisson de Toman. Il n'est pas trop difficile à faire le kerupuk basah. D'abord, la chair de poisson est séparée des os et la peau, et ensuite mélangée avec de l'ail, le poivre et le sel. Ajoutez la farine de manioc. La comparaison, deux parties de la chair de poisson et une partie de la farine pour produire un goût délicieux. Et ensuite, la pâte est mélangée jusqu'à Kotsuteos, et ensuite ils sont formés en ronde et mettre dans l'eau bouillante, cuire jusqu'à ce que le flotteur est puis retiré. Et le kerupuk basah est très délicieux quand il est servi chaud. Cependant, avant de servir, les craquelins détrempés doivent être coupés. Les craquelins humides ou kerupuk basah sont plus délicieux s'ils sont mangés avec la sauce aux arachides épicée et salée. Et si vous êtes dans la région de Kapuasulu, Kalimantan Ouest, vous pouvez acheter le kerupuk basah. Bien que provenance de la région de Kapuasulu, ces collations peuvent également être trouvées dans d'autres régions, entre autres Sintang, Sekadau, Sanggau, y compris la ville de Pontianak. Le prix n'est pas cher, environ 10 000 jusqu'à 15 000 rupiah par portion. Le vendeur d'habitude prépare l'emballage et barbouille les craquelins avec la farine de sorte qu'ils peuvent être consommés à la maison après avoir cuit à la vapeur. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique l'Indonésie en couleur ou la couleur indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Le 13 octobre est célébré chaque année par la communauté du monde entier comme la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Cette Journée internationale de la prévention a été conçue par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager la communauté et les gouvernements à participer à la construction des sociétés étant résilientes aux catastrophes. Par résolution 44 et 236, le 22 décembre 1989, l'Assemblée générale des Nations unies a initialement fixé un deuxième mercredi d'octobre chaque année comme Journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles. En 2002, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de maintenir les efforts visant à réduire l'impact et l'atténuation des catastrophes naturelles à l'échelle mondiale en créant la journée commémorative internationale étant célébrée chaque année. En 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a fixé 13 octobre comme Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Cette année, cette journée a pour le thème Live to Tell, Raising Awareness, Reducing Mortality. Ce thème vise à faire la campagne pour la sensibilisation publique afin de réduire la mortalité aux catastrophes. La catastrophe est l'affaire de toutes les parties. En réponse aux catastrophes dont la fréquence augmente chaque année, la pensée vers la gestion des catastrophes doit être comprise et mise en œuvre par toutes les parties. Par conséquent, périodiquement, l'Indonésie construit un système national de la gestion des catastrophes. Ce système de la gestion des catastrophes indonésiennes est stipulé dans la loi numéro 24, l'année 2007, comprenant de la législation, des institutions et de planification des finances, de la science, de la technologie et de la gestion des catastrophes. De l'aspect institutionnel, le système de la gestion des catastrophes indonésiennes peut être consulté du côté formel et non formel. Formellement, l'Agence nationale de la gestion des catastrophes BNPB est le point focal de l'institution gouvernementale au niveau central. Cependant, le point focal de la gestion des catastrophes aux provinces et aux districts, villes et l'Agence régionale de la gestion des catastrophes, ou BPBD. En termes non formels, des forums au niveau national et local visent à renforcer la mise en œuvre de la gestion des catastrophes en Indonésie. BNPB est une agence gouvernementale non ministérielle qui a pour mission d'aider le président de la République à coordonner la planification et la mise en œuvre des activités de gestion de catastrophes et d'intervention d'urgence d'une manière intégrée et mettre en œuvre la gestion de catastrophes et d'urgence d'avant, pendant et après une catastrophe qui inclut la prévention, la préparation, l'intervention d'urgence et rétablissement. Chers amis dans le monde entier, c'était la couleur indonésienne ayant le titre « La journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles ». Merci de votre attention et fidélité. Au revoir. Sampai jumpa.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ca.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente une chanteuse de pop nommée Titi Sandora. Bon serviteur, voici Titi Sandora avec sa chanson intitulée « Merantau ou Vagabondé ». Bonne écoute.
Mm-hmm. ku dibesarkan oleh ibuku di kampung halamanku. Tapi kini hanya kenangan yang ku alami.
Titi Sandora aku mangse sa karier dang les années 60 dang le monde de Chang. Son premier album ang titulé Si Boncel arrangé par le groupe Zainal Combo, un groupe musical dirigé par le défunt Zainal Arifin. Ses lyrics drôles dans l'album sont joués presque tous les jours sur les radios, y compris les radios privées. Outre Si Boncel, il y avait aussi des chansons comme Fujiyama, Sissiti est devenue la mariée, ainsi que l'ami d'école. Bon, Serita, écoutons donc maintenant la chanson de Titi Sandora intitulée Fujiyama. Bonne écoute.
Thank you.
Chers amis longtemps, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse indonésienne, Titi Sandora. La popularité de Titi a continué jusqu'à ce qu'elle soit adolescente. Les chansons javanaises Phénomental, Walang Keke, appartenant Waljina, qui avait si célèbre à la fin de la décennie des années 60, a été chantée par Titi Sandora. Titi est plus célèbre concomitant avec la popularité de chansons intitulées Vagabondé, composée par Yasir Syam. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson de Titi Sandora intitulée Si Jago Mogok. Chers auditeurs, c'était le programme Le Magazine Musical pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi, se termine notre mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie. Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.